France Musique. Musicopolis. Trois ans, de l'esquisse à la consécration. Il était une fois un compositeur de musique qui avait une grande réputation comme organiste et dont la musique instrumentale était universellement appréciée, mais cela ne lui suffisait pas et il s'irritait de ne pas arriver à l'opéra quand il voyait tant de médiocrité. Ayant en train une Dalila à l'état d'esquisse, il se confia à son ami, abbé et musicien, figure de proue de la nouvelle musique européenne, lui racontant son désir de se faire jouer. L'abbé lui dit de continuer et lui promit, sans même l'avoir vu, que dès que l'œuvre serait achevée, il la ferait représenter sans plus tarder. Ce début de conte est une paraphrase d'une lettre de Saint-Saëns que j'ai arrangée, je l'avoue, pour introduire notre musicopolis du jour. Le compositeur est Saint-Saëns et son opéra s'appelle à présent Samson et Dalila. La scène à laquelle il est fait allusion se tient à Weimar en 1870. Weimar, où le grand-duc Charles-Alexandre a pour maître de chapelle un certain Franz Liszt, musicien et abbé. Liszt est un acteur majeur dans le paysage musical germanique de l'époque, et c'est en outre un musicien d'une ouverture et d'une bonté extraordinaire. Les jeunes viennent volontiers prendre ses conseils et profiter de son intelligence et de sa pédagogie. C'est ce que fait Camille Saint-Saëns, 35 ans, ex-enfant prodige, pianiste virtuose et reconnu, et compositeur de musique sacrée, de pièces pour orgue, de musique de chambre, de mélodies, de symphonies, de concertos, et j'en passe. Ce mois de juin 1870, il est là pour célébrer dignement Beethoven, né 100 ans plus tôt à Bonn. Il joue à deux pianos avec le maître. C'est à cette occasion, alors qu'il mentionne en passant les esquisses de son opéra, que Liszt lui promet de monter l'œuvre dès qu'elle sera prête. Lorsque Saint-Saëns parle à Liszt de son opéra Dalila, il y a déjà 11 ans qu'il y travaille. Et il va se passer encore 7 ans pour que la création ait lieu à Weimar. Puis encore 13 ans pour la première audition en France, à Rouen et à Paris. Et encore 2 ans pour que l'œuvre entre à l'Opéra de Paris. Il se passera donc 33 ans entre le début de son travail et la consécration parisienne. Saint-Saëns a alors 57 ans. On ne l'appellera plus désormais que l'auteur de Samson et Dalila.
Samson et Dalila.
Pour raconter les prémices de l'opéra de Saint-Saëns, il faut remonter à 1859. Saint-Saëns a 24 ans. Il est depuis 2 ans organiste à la Madeleine. Il a remporté plusieurs prix de composition et son catalogue est déjà riche de pièces symphoniques, chorales, de pièces pour piano et de mélodies. Il a déjà commencé 2 opéras comiques qui resteront inachevés. C'est un ami de la famille qui aurait lancé l'idée qu'il compose un oratorio en évoquant le livret d'un Samson de Voltaire proposé à Rameau. Mais plutôt que les vers du philosophe, Saint-Saëns préfère une adaptation de la Bible par Ferdinand Lemaire, cousin d'une cousine, employé des chemins de fer et librettiste amateur. Il sera ainsi plus facile pour le compositeur de contrôler le texte. Camille Saint-Saëns et son librettiste Ferdinand Lemaire travaillent ensemble à leur Dalila. C'est ainsi que s'appelle l'ouvrage au début de la composition, en 1859. Quelques scènes du premier et du deuxième acte sont bien avancées dès cette époque. Puis les deux compères lâchent l'affaire. Il est vrai que l'œuvre n'a fait l'objet d'aucune commande, qu'aucun théâtre ne l'a réclamée et qu'aucune date n'est avancée pour la création. Le quotidien reprend ses droits avec son lot de préoccupations et d'urgences à traiter. Il est probable que pendant toutes ces années où Saint-Saëns n'avance pas sur son opéra, il songe néanmoins à son héroïne. Dalila est tout sauf dans le moule. Comme l'ont remarqué les commentateurs avisés, l'héroïne d'opéra jusque-là est plutôt une frêle et pure jeune fille, soprano, qui est le jouet de force qui la domine, toute soumise à l'amour d'un ténor, amour contrarié par un baryton. Ce qui reflète assez le rôle social qu'on attribue aux femmes à cette époque. Ici, Dalila ne répond en aucune manière à ce modèle. C'est une femme forte, libre, sensuelle, qui use de ses armes féminines pour assouvir une vengeance à la fois personnelle et politique. En 1867, 8 ans après le début de la composition de Samson et Dalila, Saint-Saëns organise chez lui une petite audition privée d'extraits du deuxième acte. « Je le fis entendre, écrit Saint-Saëns, chez moi, devant un auditoire d'élite qui n'y comprit absolument rien. J'avais écrit les parties vocales seulement pour les chanteurs. Tout le reste était dans ma tête, il n'y avait écrit que des fragments d'esquisses. » D'un autre côté, quand je parlais de ce projet devant des gens de théâtre, il fallait voir comment il était reçu. On déclarait un sujet biblique impossible à la scène. Même Moïse de Rossini n'était pas resté au répertoire. Devant cette hostilité générale, peu à peu, je renonçais à mon projet. Je commençais à oublier ce que j'avais fait. Je pus faire jouer, Dieu sait à travers quels obstacles, la princesse jaune, le timbre d'argent. Pianiste, symphoniste, organiste, compositeur d'œuvres religieuses, j'étais considéré comme impossible au théâtre.
Thank you.
1870, alors que Saint-Saëns a abandonné son opéra en cours, se tient la fameuse scène avec Liszt, qui, sans en avoir entendu une note, l'assure de son soutien et promet qu'il montera Samson et Dalila dès qu'il sera fini. Une guerre franco-prussienne et une commune plus tard, auteurs et compositeurs se remettent donc au travail. Avec tout ça, nous sommes arrivés en 1874. Au mois d'août, une audition du deuxième acte est organisée par Pauline Viardot, dans un petit théâtre chez ses voisins près de Bougival. C'est pour elle, à l'origine, que Saint-Saëns avait prévu le rôle. Ce soir-là, le maître est au piano. Viardot raconte « La surprise que nous avions ménagée à Saint-Saëns, c'était de le jouer dans un décor et en costume. Quand la toile s'est levée et qu'il m'a vu dans toutes mes parures orientales, il s'est arrêté pour s'écrier « Ah, que c'est beau !» L'orage gronde chez Dalila et après cette air, elle va bien sûr convaincre Samson, pour son malheur, de lui révéler le secret de sa force. Mais quant à nous, poursuivons notre récit. En 1876, Saint-Saëns achève sa partition. Et en décembre 1877, c'est enfin la création de l'opéra, grâce à Liszt, à Weimar, en allemand, devant toute la cour, en présence du grand-duc et de toute sa famille. Le public et les interprètes sont aux anges. Pourtant, en France, toujours rien. Enfin si, depuis quelque temps, des extraits séparés commencent à entrer dans les programmes de concert. Mais on se plaint qu'il y a là des harmonies osées et pas de mélodie.
Verser la vertu
Avant même que la partition soit achevée, les extraits de Samson et Dalila sont entrés au concert. Un acte par-ci par-là ou un extrait orchestral. La bacchanale devient un must des associations symphoniques. Saint-Saëns connaît bien les pays d'Afrique du Nord. Il a souvent composé des pièces inspirées par la musique arabe. Il a concentré dans la bacchanale du troisième acte de Samson et Dalila une grande partie de l'exotisme et de l'orientalisme inhérents au sujet. Après la création à Weimar en 1877, Samson et Dalila commencent à se répandre. On l'entend en version scénique à Bruxelles en 1978. Saint-Saëns lui-même dirige l'œuvre à Hambourg en 1982. Enfin, à Rouen, au Théâtre des Arts, l'opéra est donné pour la première fois en France en 1890. C'est un immense succès qui aboutit à ce que, finalement, l'ouvrage soit monté à Paris, au Théâtre L'Éden. Tout le monde se demande alors pourquoi on ne l'a pas vu plus tôt. Et pourtant, il faut encore 2 ans avant que l'œuvre entre enfin à l'opéra, 15 ans après sa création. Bien sûr, Samson a alors perdu un peu de sa nouveauté et de sa modernité. Mais ce n'est certes pas la faute de Saint-Saëns, qui a dû se battre contre tous les préjugés, les accusations de wagnérisme conjuguées à l'image vénéneuse de Dalila. Il lui a fallu du temps pour renverser les colonnes du temple. Le final de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns avec Placido Domingo en Samson, les chœurs et orchestres de l'Opéra Bastille dirigés par Myung-Woon Chung. Je voudrais dédier cette émission à Yves Gérard, mon bon maître, l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées, professeur d'histoire de la musique au conservatoire, spécialiste de Saint-Saëns, au savoir humble et généreux. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Jais Antaous pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.